Direct en jeu la radio insolite, j'adore quand mon invité me dit « Oh, moi je n'ai pas peur ». Imaginez, hein, il faudrait que je prenne une photo, il y a le soleil, la mer, il y a tout, et il y a surtout, alors comment est-ce que, Jenna, comment est-ce qu'on t'appelle ?
Jenna Suru.
Qu'est-ce que c'est que ce nom-là ?
Alors déjà, je tiens à préciser que c'est un très très joli nom. Mes parents ont été très poètes à ma naissance puisque mes noms sont en fait une référence aux États-Unis. Ils m'ont appelée Jenna Cannell Alizé, donc Jenna prénom américain, Cannell parce que c'était l'épice qu'il y avait sur le bateau de Christophe Colomb et Alizé parce que c'est le vent qui l'a poussé. Et oui, donc c'est une jolie référence en fait à Christophe Colomb et à la découverte de l'Amérique, même si évidemment tout ça c'est une très vieille histoire maintenant.
Tu es quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, de merveilleuse. Comment j'ai pu vivre toutes ces années sans te croiser ? Explique-moi tout. Qui es-tu déjà ? Que fais-tu dans la vie ?
Donc je suis réalisatrice, scénariste, actrice et je dirige aussi le Festival international du film de Paris. Merci pour les compliments, hein, ça commence bien, ça commence bien.
Alors, quand tu dis, j'ai pas très bien compris, quand tu dis je dirige, c'est-à-dire tu es...
Oui, donc c'est moi qui m'occupe de...
Tu es la présidente.
Voilà, c'est ça. Et puis surtout aussi, en dehors de l'organisation même du festival, je suis la directrice de la programmation. Nous recevons des films des quatre coins du monde. Donc vraiment, les films qu'on sélectionne pour le Festival international du film de Paris viennent des cinq continents. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On présente le meilleur du cinéma indépendant français, mais aussi international. Et du coup, tout au long de l'année, on reçoit des longs-métrages, des courts-métrages, même des séries télé et des scénarios qu'on visionne, qu'on lit à plusieurs mains et on se réunit régulièrement pour sélectionner des films qui nous paraissent non seulement avec un très très fort potentiel international mais aussi par leur qualité, par leur message positif. C'est quelque chose de très important pour nous.
Juste un truc, si on peut faire une marche arrière deux secondes ?
Bon ouais, pas de souci.
Non mais attends, tu viens d'avoir à peine 18 ans quoi.
Je suis encore un petit bébé. Bah, disons que c'est vrai que...
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à ton âge aussi juvénile, tu es autant de pédigré ?
C'est vrai que j'ai la chance d'avoir connu ma passion pour le cinéma très très tôt aussi. Donc, j'ai commencé le théâtre à 8 ans, j'ai pu avoir la chance aussi de réaliser, écrire et même jouer dans L'Âge d'or, mon long métrage produit par ma société de production de cinéma française Belle Époque Film, qui est un hommage au Saint-Tropez et au Paris des années 60. Et c'est vrai que c'est une vraie volonté, un vrai souhait de ma part, une inspiration de rendre hommage aux artistes. Par exemple, L'Âge d'or est un hommage aux artistes et je pense notamment aux pionnières des années 60, qui ont apporté le changement dans ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Et à travers le Festival international du film de Paris, l'idée, c'est de rendre hommage aux artistes d'aujourd'hui, des quatre coins du monde, vraiment encore une fois, mais aussi à leur message positif, qui peut être un message environnemental, qui peut être un message sur, par exemple, la santé mentale. Là, je pense à des sujets, évidemment, qui sont très discutés en ce moment. Mais c'est vraiment un panel très, très large. Je pense aussi, par exemple, à des très, très belles histoires comme le film de Nora Lacoche, écrit par Frugina Fekete, Hab, en anglais Cream, que nous avons présenté pour sa première au festival et qui ensuite a été distribué et encore actuellement sur HBO. Donc, c'est des très, très beaux films. Et on est très fiers aussi que derrière la caméra, même si nous ne sélectionnons pas du tout autour du genre ou du non-genre, d'ailleurs, plus de la moitié des films que l'on sélectionne au festival sont des films réalisés par des femmes. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très important à montrer.
Alors, on ne m'a pas dit où est-ce qu'on était. Ta présence ici est obligatoire, incontournable, fondamentale. Comment est-ce qu'on peut dire ça ?
Incontournable. Le Festival international du film de Cannes, c'est ma neuvième édition que je suis présente sur le festival et pour nous c'est très important puisque comme on en parlait, nos réalisateurs, nos équipes sont vraiment présentes partout dans le monde et le Festival international du film de Cannes, comme ici la 75e édition, est un moment privilégié pour leur remettre leur prix, pour organiser des événements, pour se rencontrer et c'est aussi un moment où on découvre de nouveaux films. Je pense bien sûr aux films de la sélection, mais aussi les films de réalisateurs et réalisatrices qui sont présents ici, et aussi de rencontrer et de revoir d'autres présidents de festivals, les professionnels, on va dire, du cinéma, avec qui on peut être déjà en partenariat. Et on est aussi toujours ravis de découvrir des nouveaux partenaires potentiels pour les éditions à venir. Alors, c'est vraiment difficile. Moi, je dirais avant tout la France. La France, c'est mon pays. Je suis très, très fière aussi de pouvoir ainsi célébrer la ville de Paris à travers le cinéma. Je trouve que c'est vraiment le cœur, on va dire l'un des cœurs qui a tellement inspiré le 7e art. La France, bon, déjà, on pense à Alice Guy. On pense aux Frères Lumière, on pense à Alice Guy pour vraiment la naissance du cinéma. Et je suis très, très fière de pouvoir faire rayonner le cinéma à travers Paris. Après, je suis aussi une grande, grande fan du cinéma américain, et notamment le cinéma américain indépendant. Quand je peux, je vais au festival international, enfin le festival américain de Deauville, qui présente le meilleur du cinéma indépendant américain, et je trouve que c'est une très grande source d'inspiration. Pour l'âge d'or, ça a été aussi une de mes inspirations, et je trouve que le cinéma américain a vraiment... Des inspirations qui peuvent être communes au cinéma français, mais aussi hybrides ou complètement différentes. Et je pense par exemple à Ghost Story, que j'avais vu à Deauville, qui était vraiment complètement différent et magnifique. Donc, c'est difficile de faire un choix. Mais s'il fallait choisir, je choisirais la France.
J'ai une question un peu compliquée pour toi. Est-ce que tu es prête à répondre ?
Oui, bien sûr. Je t'ai dit, hein, moi je suis prête, je réponds à toutes les questions. Je suis ouverte à répondre à tout.
Allez, très basique comme question. Le cinéma, c'est quoi ?
Ben ça, c'est la question auquel on essaie d'apporter une réponse à chaque fois qu'on fait un film. C'est avant tout, à mon sens en tout cas, parce que je pense que si tu dis que cette question est compliquée, c'est parce que c'est une question aussi assez personnelle. Pour moi, le cinéma, c'est l'occasion d'avoir une voix. On dit souvent que la parole, ça ne se donne pas, ça se prend. Pour moi, le cinéma, c'est un moyen de prendre la parole.
Oula, attention, là ça demande à réflexion. Tu as une vie en dehors du cinéma ?
C'est important. La vie en dehors du cinéma est très très importante. Par exemple, moi je suis aussi une grande fan de musique. Je joue du piano, je chante à titre plutôt, on va dire, pas accessoire, mais disons, tu m'as dit, à côté du cinéma, ça reste. Mais c'est des choses aussi qui sont très importantes de développer. Par exemple, dans mon long-métrage, L'âge d'or, la place de la musique est très importante, avec un partenariat que j'ai développé pour le film avec Gibson, qui est donc partenaire de L'âge d'or, et aussi la bande originale de L'âge d'or, que j'ai produite avec un groupe de rock anglais sur des titres de Chuck Berry, Jimmy Reed, et qui permet aussi de vraiment développer cette atmosphère années 60 avec tout son modernisme de l'époque finalement. Et je crois que avoir une vie en dehors du cinéma, peut-être, je crois que tu as raison, c'est très important de le rappeler. On peut l'oublier, mais je crois que c'est indispensable, non seulement à titre personnel, mais aussi pour ses inspirations.
On va parler de Saint-Tropez bientôt, parce que c'est vrai qu'il y a l'expo Michel Galabru qui a beaucoup de succès depuis son ouverture au mois d'avril. Ça veut dire que c'était mieux avant, parce que tu parles de l'âge d'or, c'était mieux avant ou c'est bien aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais par contre, je suis persuadée qu'avant peut être une grande source d'inspiration pour aujourd'hui. Bon, après, on enfonce un peu des portes ouvertes si on dit que c'est important d'apprendre l'histoire et de s'inspirer de l'histoire. Mais je crois que, pour revenir sur la période qui intéresse l'âge d'or, mais aussi finalement aussi Michel Galabru, les années 60... spécifiquement sur cette période, il y a une vraie inspiration pour aujourd'hui. Je pense notamment, bien sûr, donc à la fin des années 60, où se situe l'âge d'or. Je pense même à l'été 67, où précisément se situe l'âge d'or, donc c'est juste avant mai 68. C'est vraiment l'époque où, à Saint-Tropez, il y a eu la vague hippie, c'est la règne de la vague hippie. Et de ce changement, et aussi sur le plan international, c'est vraiment la période juste avant Woodstock et Isle of Wight au Royaume-Uni. Et c'est une période où il y a eu énormément de changements et d'inventions qui ont été très importantes jusqu'à aujourd'hui. Je pense bien sûr à la télévision en couleur, mais aussi à des choses plus sociétales. Voilà, la télévision en couleur, ça nous fait presque rire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense à des choses en fait, qui doivent absolument être réaffirmées, parce que la vérité doit toujours être répétée, comme par exemple la pilule, la contraception. Ça, c'est des choses malheureusement qui, aujourd'hui, doivent encore être répétées internationalement. Et je crois que ce sont pas seulement des enseignements, mais c'est simplement un sentiment que j'avais envie de partager avec le public d'aujourd'hui. Et j'avais envie que le public d'aujourd'hui puisse soit vivre, soit revivre cette période, notamment à Saint-Tropez, où beaucoup d'artistes, pour pas dire vraiment une grande majorité d'artistes qui pouvaient se le permettre, venaient à Saint-Tropez pour trouver l'inspiration, aussi pour se retrouver, retrouver une certaine forme d'anonymat, de simplicité, puisque les Tropéziens et les Tropéziennes accueillent avec beaucoup de générosité et de bienveillance de la même manière les artistes inconnus, les artistes très connus. Et je crois que c'est très important de revivre en fait cette période pour aussi peut-être diriger un petit peu le changement aujourd'hui.
Pourquoi Saint-Tropez ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Saint-Tropez, c'est... Alors, il paraît que c'est un petit village très charmant sur la côte, Alain.
Bah oui, pourtant, c'est un petit village. Quand on y va en dehors des périodes estivales, bah, c'est une petite bourgade. Voilà.
Il paraît. Pourquoi Saint-Tropez ? Alors, déjà parce que c'est un village magnifique. C'est vraiment, à titre purement artistique, la lumière à Saint-Tropez est vraiment inspirante. Pour moi, c'était vraiment une des premières choses qui m'a beaucoup marquée, c'est la lumière. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'en ce moment, on rend hommage à Paul Signac, ce marin impressionniste peintre qui a été adopté tout de suite par Saint-Tropez lorsqu'il est arrivé sur son bateau au port du village. Il y a vraiment une énergie à Saint-Tropez, une lumière. Et je crois aussi, finalement, une lumière qui vient des habitants. Je pense toujours au premier moment où vraiment je suis arrivée à Saint-Tropez, où j'ai été accueillie par les Tropéziennes et les Tropéziens avec beaucoup de naturel. C'était comme une évidence. Il s'est vraiment passé quelque chose depuis le début. Ils m'ont beaucoup soutenue pour l'âge d'or. C'est vraiment, l'âge d'or est vraiment un hommage avant tout à Saint-Tropez, au golfe de Saint-Tropez. Ensuite, aussi pour des raisons historiques, tout simplement parce que à la fin des années 60, Brigitte Bardot, François Sagan, Juliette Gréco, pour reprendre vraiment les trois thèmes artistiques, le cinéma, la littérature et la musique, avaient choisi Saint-Tropez comme un havre de paix, en fait, un havre d'inspiration, mais aussi de paix pour se retrouver, pour se développer. Et c'est vraiment à ce titre le village qui m'a paru être exceptionnel à tel point d'en faire un film pour que le public aussi d'aujourd'hui puisse revivre ou vivre cette douce France, mais à travers le changement. C'est-à-dire ce moment où Saint-Tropez était un hub international artistique, où finalement il y avait tant qui se passait, il y avait beaucoup finalement de changements. Je pense aussi pas qu'à des artistes français, mais à Mick Jagger, à Audrey Hepburn. C'était devenu vraiment un lieu incontournable. Et ça l'est toujours d'ailleurs.
On peut te voir, quand on va au musée de la gendarmerie, un petit clin d'œil à la directrice Laurence Durieux, qui a eu la bonne idée de te demander de faire un film particulier.
Tout à fait. Laurence Durieux, du coup, qui est la commissaire de l'exposition, Michel Galabru, un comédien sur tous les fronts, qui a d'ailleurs été renommé après le film que j'ai créé sur sa demande pour rendre hommage aux comédiens et aussi au metteur en scène, Michel Galabru, et à l'humain, pour son 100e anniversaire cette année, puisque c'est le 100e anniversaire de son anniversaire, de sa naissance. Et c'est un film que l'on peut découvrir à travers cette exposition temporaire dès maintenant, tous les jours jusqu'en mars 2023. Et à travers ce film, ce qui était important pour moi, ce que j'ai proposé à la ville de Saint-Tropez, c'est de pouvoir découvrir Michel Galabru comme on le connaît un peu moins, c'est-à-dire bien sûr l'adjudant Gerbert aux côtés de Louis de Funès, Jean Lefebvre, toute la clique dans la saga des gendarmes, mais aussi le dramaturge, le comédien qui a endossé le costume aussi de ce tueur en série dans Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, ce qui lui a valu le César du meilleur acteur. Et aussi le metteur en scène, puisque Michel Galabru a non seulement été metteur en scène, mais il a été présent sur les planches quasiment jusqu'au moment où il nous a quittés. Il était aussi très souvent au festival de théâtre de Ramatuelle, et il a aussi créé le théâtre Montmartre Galabru, qui a été rebaptisé par la suite le théâtre Michel Galabru à Paris.
Le cinéma, c'est une passion, c'est dans ton ADN.
Je pense que le cinéma est dans mon ADN parce que ça a été une passion depuis plus jeune que je peux avoir un souvenir. Je me souviens avoir été très inspirée, très marquée, notamment par le cinéma de la Nouvelle Vague, le cinéma américain, tous les grands classiques. Aussi par exemple, je pense à Damien Chazelle, ce réalisateur franco-américain qui m'a beaucoup marquée, des Whiplash. Whiplash qui vraiment m'a beaucoup marquée parce que des inspirations effectivement qui viennent de Jacques Demy, qui viennent de la musique aussi, qui me passionne beaucoup. Donc je pense que le cinéma finalement est un moyen d'expression et aussi un moyen de pouvoir diffuser un message. Pour moi, par exemple, pour l'âge d'or et pour rendre le Saint-Tropez des années 60, c'était évident qu'il fallait en faire un film, notamment pour revivre cette musique et pour revivre aussi tous ces lieux magiques où on a tourné, comme par exemple le Vieux Port, la Ponche à Saint-Tropez, l'hôtel du Sub, le bar du Sub, ou encore à Paris, le pont Bir Hakeim ou à côté de la Tour Eiffel. C'était vraiment toute une ambiance. Et je trouve que pour rendre avec une telle force cette ambiance et ces messages, le cinéma est un art privilégié.
Ce soir, le cinéma de la plage fait son ouverture avec The Truman Show, qui a inspiré l'affiche du 75e Festival de Cannes avec... ça y est, j'ai un trou de mémoire avec Jim Carrey. Demain, on a Tom qui arrive, je crois, c'est ça, un dénommé Tom. On se demande s'il arrive en hélicoptère ou non.
Il s'appelle Tom. Ouais. On verra, on ne le connaît pas très bien.
Tu vas l'accueillir à la descente de l'hélicoptère, je suppose. La semaine prochaine, on a Iti. C'est assez extraordinaire. Et puis, on a Le Parrain qui est retransmis. Le cinéma, ça permet de garder un peu d'histoire, de valoriser tout cela ?
Tout à fait. Tu l'as vraiment très bien dit. Hein. Je crois que, ne serait-ce qu'avec l'affiche que tu as mentionnée, qui est une référence au Truman Show, on a finalement ce signe que l'histoire est très importante aussi aujourd'hui. Bien sûr, cette affiche, elle dit beaucoup, que, comme l'a dit le Festival de Cannes lui-même, elle dit avant tout la force de la fiction, en positif comme en négatif, c'est-à-dire l'importance de se rappeler que vivre dans un rêve, enfin vivre dans une fiction est extrêmement dangereux, mais aussi rappeler la force du cinéma et le pouvoir éducatif qu'a le cinéma. Le cinéma peut justement nous apprendre des choses et nous révéler. Finalement, je crois que c'est finalement ce questionnement qui est important et c'est pour ça que le cinéma est très important, puis avec notamment des répercussions même qu'on vit au jour le jour aujourd'hui, avec bien sûr... la guerre en Ukraine, enfin des choses qu'il est important de répéter et de questionner continuellement. Bien sûr, on pense à tous ces magnifiques films qui sont montrés comme Le Parrain. Je crois que le Festival de Cannes, une fois de plus, montre à quel point le cinéma de patrimoine est très important et à quel point aussi rappeler des vérités, même celles qui peuvent nous paraître les plus acquises et les plus évidentes, est absolument essentiel.
La question s'adresse à la présidente du Festival international du film de Paris. L'an dernier, Spike Lee, cette année, Vincent Lindon. Waouh !
Ah oui, waouh !
On passe d'une extrême à l'autre, là, carrément.
Alors, l'un, oui, très... Alors, d'un extrême à l'autre, c'est deux artistes très extrêmement talentueux. Alors, c'est vrai que d'un côté, plutôt sur le plan du cinéma américain, de l'autre, plus sur le plan... du cinéma français, mais finalement tout finit par presque se mélanger avec le monde d'aujourd'hui. Le public est de plus en plus friand aussi de cinéma international, mais dans les deux cas, je crois que le Festival de Cannes a vraiment fait le choix de deux artistes extrêmement talentueux qui se sont aussi engagés pour le changement et qui ont aussi, je crois, un message très important chacun dans son domaine à faire passer.
Allez, une des dernières questions. Enfin, que représente la montée de ce fameux tapis rouge qu'on a vu en installation ce matin à 10h30, que j'ai retransmis en direct? Qu'est-ce que ça représente, la montée de ce tapis rouge?
Ça, c'est encore une question très personnelle, je trouve, parce qu'en soi, c'est aussi la montée des marches qu'on retrouve dans l'affiche officielle de cette 75e édition et qui montre, du coup...
Mais les marches sont bleues sur l'affiche, hein, pour info.
C'est un tapis bleu sur l'affiche, c'est vrai. C'est joli, d'ailleurs. C'est peut-être finalement une référence à l'idée qu'il faut monter au ciel, c'est-à-dire pas seulement à titre, on va dire, pas comme dans The Truman Show, mais aussi dans un sens tout à fait artistique, c'est-à-dire l'importance du rêve, mais aussi de prendre conscience que vivre dans un rêve peut être dangereux. C'est-à-dire, encore une fois, il y a cette ambivalence. Vivre dans un rêve, vivre dans une fiction est potentiellement extrêmement dangereux. Mais finalement, on ne sait jamais si on est dans une fiction ou dans la réalité. Après tout, j'ai envie de te dire, comme tu l'as dit toi-même au début, Alain, est-ce que ceci est vraiment la réalité? C'est tellement magnifique. Là, on est au pavillon européen, au pavillon média, avec un soleil extraordinaire. On a la chance de pouvoir faire vivre le cinéma autour de nous. C'est une chance qui est énorme. Et il faut se rappeler que cette chance, il faut aussi continuer de s'en servir pour diffuser des messages et surtout ne jamais rien considérer comme acquis. Pour moi, la montée des marches, finalement, qui est aussi représentée sur cette très, très belle affiche de la 75e édition du Festival de Cannes, c'est un moyen de nous rappeler que oui, C'est très beau. Oui, le cinéma est magnifique et est un énorme vecteur de communication pour faire passer des messages, mais on ne peut jamais vraiment se considérer en haut des marches. C'est-à-dire les marches, elles continuent. Il faut continuer ce questionnement. Il faut toujours questionner la réalité et se demander si on peut faire mieux.
Hier, j'étais sur une interview avec une artiste qui va faire le Festival of d'Avignon, qui me disait que c'était un marathon du 7 au 30 juillet et qu'il fallait déjà se préparer psychologiquement au 31 juillet. Toi, tu te prépares déjà psychologiquement à l'après-Festival de Cannes ?
Alors, oui, effectivement. Je rejoins tout à fait ce qu'elle t'a dit. C'est vrai qu'on est toujours en train de préparer la suite, puisque lorsqu'un projet se termine ou lorsqu'un festival se termine, c'est un autre qui commence. Donc, on est constamment en train de préparer la suite. Après, il n'y a rien de mieux que l'instant présent. Donc ça, c'est important aussi de vivre l'instant présent. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'on est constamment à l'affût. Par exemple, moi, je pense beaucoup au Festival international du film de Paris. C'est un festival qui est annuel, qui a lieu entre Sundance et l'IFM à Berlin, autour de la Saint-Valentin. Mais c'est finalement un travail qui a lieu tout au long de l'année. Je m'exprime sur les panels du Festival de Cannes, de Sundance, ou encore de Rendance ou de Cinequest. Mais aussi, où on visionne les films toute l'année et finalement on est constamment en train de se poser la question d'à quoi va ressembler la prochaine édition. On est constamment en train de se demander comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut plus partager le cinéma avec notre public et aussi faire connaître encore plus nos réalisatrices et nos réalisateurs. Donc je la rejoins tout à fait sur ce qu'elle t'a dit, c'est parfaitement vrai. On pense toujours à l'après finalement.
À quoi va ressembler la prochaine édition du Festival international du film de Paris ?
Ça, justement, c'est la grande question qu'on se pose tous les jours. Alors, idéalement, on voudrait beaucoup un festival, une édition hybride, tout simplement parce que notre festival se veut inclusif de tout. Et lorsqu'on pense à l'inclusion, on pense beaucoup au genre et à ce qu'on appelle en anglais « race », c'est-à-dire à bien sûr inclure les personnes de toutes origines. Mais nous, on pense aussi beaucoup, et c'est important de ne pas oublier d'inclure, par exemple, tous les réalisateurs et les actrices qui ont des capacités financières différentes, une éducation très différente. Et on s'est rendu compte, avec la pandémie, l'importance d'avoir aussi une édition virtuelle, puisqu'elle permet à tout le monde de pouvoir... Et alors, je pense, bien sûr... à des étudiants, à des personnes qui n'ont pas les capacités de pouvoir se déplacer. Moi, je me souviens, tu m'as parlé des États-Unis, je me souviens d'un moment où j'étais très heureuse de pouvoir ne serait-ce qu'assister à un festival américain, tellement il fallait finalement décider entre le billet d'avion et manger. Hein, c'était vraiment... c'est très difficile. Et là, aujourd'hui, on a cette chance énorme de pouvoir vivre les plus grands festivals avec un tarif plus réduit grâce à une édition virtuelle. Et ça, je crois que c'est très important. Je pense aussi à nos confrères réalisateurs et réalisatrices qui ont des enfants, parce que ça arrive aussi, ça c'est plus difficile de se déplacer. Et pour ça, les éditions virtuelles sont très importantes et on nous demande de la garder. Donc, notre souhait, c'est de bien sûr pouvoir répondre aux souhaits de notre public aussi, et bien sûr de nos réalisateurs, nos réalisatrices, c'est-à-dire de conserver une édition du Festival international du film de Paris virtuel, auquel s'ajouterait un festival en personne. Évidemment, c'est deux fois plus de travail, on s'en doute, mais on comprend bien l'importance des deux, donc c'est notre souhait pour l'édition 2023.
Pour conclure, ton rêve ?
C'est important d'avoir des rêves. Mon rêve, ce serait de pouvoir vivre dans un monde où toutes les communautés sont incluses de la même manière, où on ne parle plus de genre. Alors, je sais que c'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pas pour demain, mais peut-être pour après-demain. Ce serait mon rêve qu'on puisse vraiment parler uniquement de cinéma. C'est ce qu'on essaie de faire, mais il y a aussi une lutte qui est importante autour de la cause de l'inclusion, je pense, qu'on a discuté, pour pouvoir faire en sorte que ce soit bien tous les cinémas qui soient présents et représentés.
Comment on peut faire pour te retrouver ?
On adore entendre parler de tout le monde, que ce soit sur nos réseaux sociaux, via notre site internet ou alors directement au Festival de Cannes, si vous êtes présent. Sur les réseaux sociaux, @jennasuru, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter. On a aussi, bien sûr, les comptes du Festival international du film de Paris. On est très actifs sur Paris Intelfest. Et si vous cherchez tout ça, le plus simple, c'est de tout simplement taper monnom.com, jennasuru.com. Comme ça, vous retrouvez, voilà.
Il y en a qui vont taper monnom.com.
Alors, pas mon nom, mais disons jennasuru.com pour retrouver les actualités du festival, de l'âge d'or et tout ce qu'on va faire de beau à Cannes pendant cette édition. N'est-ce pas, Alain ?
Allez, on finit juste sur un truc. Je sais qu'on est en radio. Retourne-toi, dis-moi ce que tu as en face de toi.
Alors, écoute, la vie me paraît vraiment dure. Hein. Franchement, il y a un ciel bleu, pas un seul nuage. Je vois quelques bateaux. La vie est dure, Alain. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais...
Couper, on ne coupe jamais rien sur Direct en jeu. Merci à toi.
Merci à toi, Alain.